Bien, merci Bernard. Alors, merci pour vos deux exposés, puisque finalement vous avez, il me semble, bien fait la distinction entre l'éthique et la morale, ce qui est quelque chose de véritablement important. Alors, vous questionnez aussi chacun la voie éthique de la psychanalyse dans le monde actuel, hein, on peut dire. Nadine, tu poses la question de savoir si notre position dans les institutions, hein, au début de ton exposé, dans lesquelles beaucoup d'entre nous travaillent, change. Et jusqu'où on peut suivre les discours qui vont à l'encontre de l'expérience éthique d'une analyse. Hein. Donc je voulais savoir si tu pouvais en dire un peu plus là-dessus. Et ce qui croiserait finalement ce que tu dis à la fin de ton exposé, ces trois lignes dans ta conclusion, tu dis « la psychanalyse et son bien-dire pourraient se rendre présents dans la cité, hein, et pas que par les psychanalystes ou ceux qui reprennent le flambeau, pas que par leur discours, mais tout simplement parce qu'il y a des psychanalystes avec des effets qu'on ne peut pas présager chez le sujet analysé hors du champ de la psychanalyse. Hein. » Si tu peux un peu développer ça. Et alors, Bernard, tu poses la question à juste titre, s'il y a des psychanalystes qui participent au comité d'éthique, hein, c'est vrai qu'il y en a un peu, pas forcément tout le temps, mais il y en a un peu, et qu'en effet, s'ils participent, ils sont parfois tentés de participer au bavardage médiatique, hein, ça on peut le voir. Donc la question reste de comment préserver la psychanalyse là-dedans, dans ce monde, et de savoir comment, par rapport aux autres discours, on tient le discours de la psychanalyse. Et comme tu le dis, d'ailleurs Nadine, c'est une de tes formules aussi, il ne s'agit pas de faire rentrer la psychanalyse dans le cadre de l'éthique, mais de mettre l'éthique au pas de la psychanalyse.
C'est Lacan qui le dit.
Oui, mais vous l'avez repris. Hein? Donc, c'est que vous en avez fait quelque chose. Voilà, donc ça c'est un point sur comment fait-on, c'est un peu aussi le but de notre séminaire Champ Lacanien déjà dans son projet de base et en plus de notre titre, c'est-à-dire la voie éthique de la psychanalyse, de se maintenir dans le monde puisqu'elle se maintient, on le voit bien, mais de quelle manière elle se maintient. Ça me fait toujours penser au fait que quand on choisit un titre pour nos journées, par exemple, à plusieurs, tout un groupe, hein, on se fait déjà un tour, on fait déjà un tour sur qu'est-ce qui dans le monde se présente. Ensuite, nous vient à l'idée plusieurs thèmes. Et l'idée, finalement, n'est pas tant de circonscrire ou aller contre un discours qui serait ambiant, mais plutôt de préserver la psychanalyse et de la penser dans notre parcours des titres qu'on a eus durant les différentes années, suivre ce parcours-là et se recentrer sur la psychanalyse. À mon avis, ça, c'est une manière, après on peut discuter, mais c'est une manière de soutenir la psychanalyse ou de la faire se poursuivre comme elle peut le faire dans la cité, pour reprendre ton terme. Alors, j'ai bien aimé aussi, Bernard, que tu mettes en série le séminaire l'éthique et le séminaire encore, sachant que dans le séminaire l'éthique de la psychanalyse, Lacan parle beaucoup de la morale, hein, en énonçant qu'est-ce qu'est la psychanalyse par rapport à ça ou à côté de ça, ou, voilà, ça c'est... Alors que dans le séminaire encore, il ne le fait plus. Mais c'est vrai qu'il dit qu'il réécrit son séminaire de l'éthique dans le séminaire encore. Et il y a des points qu'on peut mettre en rapport dans un séminaire et dans l'autre. Par exemple, ce qu'il dit de l'extimité de Dasding, hein, comme tu l'as souligné. et qui se retrouve d'ailleurs dans la figure d'Antigone, hein, qui exemplifie la limite, l'extimité entre la vie et la mort. Et c'est pas pour rien qu'à cette époque, Lacan parle de l'effet du beau justement sur le désir, hein, alors que là on a parlé du désir dans la psychanalyse, en rapport avec l'éthique. Et Lacan, à cette époque, à propos d'Antigone, dit bien qu'il y a cette traversée de cette zone avec le rayon du désir qui se réfléchit et qui se rétracte à la fois. Donc on sent bien comment Lacan, dans l'éthique, finalement, évoque la question de la limite, de l'inaccessibilité, de l'extimité. Et on peut se dire que dans le séminaire encore, il reprend ce concept, mais sous la forme, entre autres, hein, de l'existence qu'il écrit en deux mots avec tiret, et justement pour élaborer que le dire dans une analyse existe ou dit. Hein. Donc il me semble que ce concept d'extimité devient ça dans le séminaire encore, quand il y a cette réécriture du séminaire l'éthique, comme le dit Lacan. Et on peut prendre d'autres points comme ça. L'amour courtois, il insiste sur la question de la barrière et de l'inaccessibilité dans le séminaire l'éthique, alors que dans le séminaire encore, il réfère l'amour courtois en rapport avec cette façon de suppléer à l'absence du rapport sexuel. On retrouve la question de l'inexistence. Hein. Donc je voulais savoir si tu pouvais dire un mot là-dessus. Et peut-être que vous pouvez répondre, et après on prendra les questions dans la salle.
Oui, j'ai interrogé... Oui, j'ai parlé des institutions parce que quand même on est nombreux à y travailler. C'est vrai, jusqu'où on peut suivre... Enfin, c'est vrai que moi je travaille avec des enfants dans les écoles. Et c'est peut-être... comme l'éthique, elle est articulée à la question du discours, hein, le discours qui se promeut, enfin qui est dans les écoles, avec les enseignants, tout ça, enfin c'est, il y a un moment on se trouve coincé par rapport à une façon d'écouter l'enfant, d'écouter ce qui se passe, et enfin, comment dire ça bien. J'ai posé cette question parce que c'est la première année où je me sens coincée. C'est-à-dire, jusqu'à présent, j'ai joué du semblant pour pouvoir réagir à certaines situations. Et là, il semble que le discours est tel qu'il faut penser différemment la façon d'aborder et les adultes qui travaillent dans ces lieux pour pouvoir quand même écouter ce que l'enfant a à dire dans les symptômes parce que, par exemple, je me disais, le petit Hans, s'il serait... en hôpital le jour, mais il aurait un AVS. Non, mais je veux dire, il est une phobie scolaire, l'enfant ne veut plus venir à l'école, il reste coincé, voilà, il a peur des chevaux, tout de suite, il y aurait une interrogation, l'assistante sociale, tout le monde viendrait voir si, je ne sais pas, il y a une culbute chez lui. Vraiment, non, mais c'est vrai, on arrive à des choses extrêmement... Et c'est tout à fait nouveau, moi, je n'avais pas eu... Jusqu'à présent, je me débrouillais, et là, je me dis, mais jusqu'où... Alors là, je me dis, voilà... Ce que dit Lacan, l'éthique convertie au silence. Dois-je me taire? Dois-je intervenir? Je sens que je suis en... qu'il y a une lutte, on pourrait dire. Parce que je pourrais dire, vous ne faites pas bien, c'est de la morale. Hein, parce qu'on peut avoir une attitude de moralisatrice en disant, vous ne faites pas bien. Voilà, je me suis... C'est ça que j'ai mis en... J'ai voulu dire, je n'ai pas de réponse. Hein, c'était pour mettre un peu en discussion... puisque c'est le champ lacanien, donc disons là où je travaille, les enfants, c'est quand même le champ de la jouissance aussi, une façon quand même très forte. Et c'était une façon aussi de pouvoir échanger avec vous sur cette question, et peut-être sur ma... Peut-être pour la première fois où je me sens un peu... Je ne sais plus disons, le semblant, là, est plus difficile à faire. Voilà.
Ça coince.
Donc, peut-être de l'avoir un peu évoqué me permet de le penser un peu et de trouver une solution à ce discours, quand même, qui contamine et qui éteint le sujet ou qui le... Oui, qui le bouche, hein, qui bouche quelque chose. Là, les enfants, là, bon, c'est un exemple, c'est peut-être pas l'endroit, mais j'ai été très touchée. Maintenant, on reçoit des enfants très petits, de 2-3 ans, et il y a un petit garçon qui ne regarde pas, parce qu'il vient d'arriver, il est complètement paumé, le pauvre. Et la maîtresse donc, ne lui parle pas, elle le regarde, et elle me dit, vous savez, il a un handicap. Alors qu'elle n'a... Juste, elle le regarde, mais elle n'agit pas. Donc, de toute façon, il est déjà sorti, il fait caca. Bon, bref, on ne l'a pas gardé. L'enfant. Il n'a pas été gardé, mais il est déjà... Il rentre dans une... Donc, moi, j'ai dit, mais attendez, vous essayez de le... Voilà, je sais, vous pouvez peut-être lui parler, mais elle ne lui parle pas. Donc, il ne lui parle pas. Moi, je suis venue lui parler, il m'a répondu. Donc, il y a... S'il ne rentre pas dans le moule, donc, dès 2 ans, et ça me fait penser à... Vous savez, à la prévention, à 2-0, à 2, à un moment, il y avait des signatures. Donc là, voilà, il y aura de la prévention jusqu'aux gamètes, hein, bientôt. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais éprouvé aussi fortement. Voilà, c'était ça qui me... Et je me dis, comment notre position, si on a fait une analyse, analyste ou pas, c'est vrai que les collègues sentent que c'est... On dit pas pareil, ou on se pose pas pareil. Alors est-ce que c'est une façon quand même de poser une éthique malgré tout, en se taisant ou en posant... Voilà, je questionnais ça, parce que ceux qui font une analyse ne sont pas forcément psychanalystes. Donc je crois qu'on a quand même quelque chose à... Quelque chose peut se... Je ne sais pas si c'était bon, se dire de ce qu'on a expérimenté, mais il n'y a que les autres qui peuvent le dire. Enfin, okay. Voilà, c'est ça que je voulais un petit peu... C'est vrai que ça me touche de parler de ce travail, parce que j'en avais jamais parlé comme ça dans le champ lacanien, mais je trouve que c'est important, ça touche les enfants très très jeunes. Et ça, c'était pas le cas jusqu'à présent.
Mais,
disons, là où je travaille, c'était pas le cas. Là, ça contamine plus tôt. Voilà.
Oh, c'était déjà le cas.
Oui.
Dans les années 70, disons, les institutrices d'école maternelle avaient mission de faire la liste des gauchers et de les envoyer au CMPP.
Oui.
Alors, on les voyait arriver, tous les gauchers au
CMPP. Et là, c'est la liste des personnes, par exemple, qui vivent dans les hôtels sociaux. Maintenant, c'est ça, la liste. Donc, voilà, c'était... Je ne sais pas si j'ai répondu.
Si, si, très bien. Bernard.
Oui. Deux points. Donc, le premier point, le fil qu'il y a entre le séminaire sur l'éthique et le séminaire au corps, c'est un fil qui m'est apparu, mais je ne peux pas en dire plus. Je pense que c'est à vous, les participants qui vont suivre, de le tirer, ce fil, un petit peu plus loin, et d'en tirer des conséquences, des conclusions, parce que c'est vraiment très très frappant, comme tu l'as remarqué toi-même, c'est très frappant, hein, de voir ça. Donc j'en dis pas plus, je crois que c'est une voie qu'il faut explorer, il faut peut-être relire le séminaire 20 après avoir relu l'éthique. Le séminaire sur l'éthique est un séminaire difficile, pas très amusant. Il y a des choses, c'est du lourd, comme on dit.
C'est la chose.
C'est la chose. Bon. Maintenant, par rapport à la position de la psychanalyse par rapport à l'éthique, je crois que vraiment. Quand Lacan dit mettre l'éthique au pas de la psychanalyse, ça ne veut pas dire du tout de faire rentrer la psychanalyse dans un débat sur l'éthique de société, etc. Je pense, moi, que l'éthique de la psychanalyse, ça doit être de soutenir le discours analytique, et le discours analytique qui est menacé, hein, il est menacé d'être récupéré Et il est menacé d'être récupéré. Pourquoi? Parce qu'il a du succès. Je crois que la psychanalyse est victime d'une certaine façon de son succès dans la société. Et c'est à partir de là que la psychanalyse risquerait d'être récupérée comme elle l'a été aux États-Unis. Hein? Donc peut-être que l'éthique de la psychanalyse, c'est de ne pas céder sur le désir de l'analyste. Et de maintenir que le discours de l'analyse existe aux autres discours. Hein. Et bien sûr qu'on doit participer à la subjectivité de notre époque, etc. Bien sûr. Mais il faut quand même y garder l'éthique de la psychanalyse qui est quand même à soutenir. Je suis en train de lire là un truc, c'est assez étonnant. C'est pour préparer des journées du collège clinique avec ce thème, le thème de l'année. Il y a un petit bouquin qui est sorti il y a quelques années, d'un philosophe, je crois, un type qui s'appelle Thierry Hockey, et qui a écrit une fiction qui s'appelle Sexus Nullus. Étonnant! C'est-à-dire Sexus Nullus. Ce bouquin est épuisé. Il a dû être un succès de librairie. Je l'ai trouvé cet après-midi en occasion chez Gibert Jeune. C'est incroyable. J'avais entendu, il avait été interviewé sur France Culture, donc c'est à partir de là que j'avais entendu ça. Son idée est simple. Étant donné que le mariage est pour tous, qu'un homme peut se marier avec un autre homme, qu'une femme peut se marier avec une autre femme, qu'on peut faire reconnaître des changements de sexe, pourquoi on s'embête encore à écrire notre sexe sur l'état civil? Vous voyez un peu le truc, hein? Subversif en diable. Qu'est-ce qui se passerait dans une société si on se disait que l'État n'a aucune raison de s'intéresser à notre sexe puisqu'on peut en faire ce qu'on en veut. Supprimons-le. Eh bien, écoutez, moi je crois que ça, c'est parti de « il n'y a pas de rapport sexuel ». Parce qu'il s'appuie là-dessus, il ne le dit pas comme ça. Enfin, quand on fait des débats sur le genre, le débat sur le genre est sorti du succès qu'a eu la psychanalyse en disant attention, le sexe, d'accord, mais il y a le genre. Hein. Et que là, finalement, pour sortir de l'impasse de « il n'y a pas de rapport sexuel », eh bien, il n'y a pas de sexe. Et c'est fini. Donc, je pense que ça montre comment le savoir déposé par la psychanalyse peut être récupéré.
Alors, de quoi on va causer?
Non, mais je peux pas te dire, il faut que je lise un peu plus loin ce livre. Mais je trouve que l'idée est séduisante. C'est une idée logique, il pousse à l'extrême la logique, puisque maintenant on peut faire ce qu'on veut, pourquoi on nous demande de nous définir comme homme et femme? On peut faire ce qu'on veut. Donc il dit que ça résoudrait complètement la question identitaire des trans. Ils s'en foutraient. Ils n'ont pas besoin de se dire homme ou femme. Ils peuvent se dire homme un jour et femme le lendemain. Ça ne gêne personne. Ça ne regarde pas l'État.
Il reste quand même la liberté.
Mais bien sûr.
Pas se marier avec son...
Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bon, simplement pour dire avec notre outil psychanalytique, maintenir le cap d'un discours qui soit toujours de subversion, c'est-à-dire d'inverser les proverbes, alors que tous les pièges nous sont tendus pour que on se sente accueilli et...
Plus subversif, tu
veux. C'est fini, après.
Des questions ?
Moi, je veux dire quelque chose, peut-être. Ce qui peut être récupéré, et qui d'ailleurs est récupéré depuis le début, depuis l'époque de Freud, c'est le discours sur la psychanalyse.
Oui, c'est ça.
Parce que la psychanalyse, elle ne peut pas être récupérée si on garde en tête que le discours analytique, c'est la cure, le lien entre l'analyste de la guérison et à supposer que ce soit analyste et analysant. Donc ça, aucun moyen que ce soit récupérable. Donc si on se situe au niveau de tout ce qui se véhicule à partir de la psychanalyse, alors on peut faire des tonnes de volumes sur les conneries qui se disent. De notre point de vue, bien entendu.
Oui,
c'est que... ça. Nous respectons tout le monde et chacun a le droit d'avoir son avis. Mais enfin, de notre point de vue, il y en a des tonnes. Bon, celui-là, c'en est peut-être un, entre autres. Bon, sur un point quand même crucial qui est celui du sexe. Mais on ne peut pas imputer ça à la psychanalyse.
Non.
Il ne faut quand même pas exagérer, je crois pas. Donc, restons au niveau du discours analytique, puisqu'on parle de l'éthique du discours analytique. Hein, c'est... Oui. Alors, je profite que j'ai un micro, je voudrais te poser une question, de façon peut-être pas centrale dans ton exposé, sur comment tu...
Il n'y a pas de micro là.
Micro,
comment
tu... Ça, on
n'entend
pas.
Non, non, ça ne change rien. Enfin, si, on entend, mais,
si, on entend,
mais sans micro.
Oui, mais je
ne
sais pas trop mal. Pour l'enregistrement.
Ah, ben, je réussis à l'allumer, mais...
C'est pas, t'as pas ça. Sûr, là, très bien. Parle bien dedans, Colette.
Oui, oui. Voilà. Tu as fait plusieurs remarques sur la question du principe de plaisir.
Oui.
Si tu pouvais peut-être, je sais bien quand quelqu'un parle, on lui demande de repréciser ce qu'il a dit, c'est toujours pénible, mais si tu pouvais préciser ton idée, parce que moi j'avais l'idée, enfin, je crois que c'est le cas d'ailleurs, c'est que Lacan oppose le principe de plaisir et au désir et à la jouissance. À plusieurs reprises, tu as parlé à propos de encore la parole principe de plaisir. Donc, tu peux dire comment tu vois ça, le rapport du principe de plaisir au désir et à la jouissance.
Oui, je. C'est simplement une intuition. Je crois qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans ce principe de plaisir chez Freud, alors que à une première lecture ça n'apparaît pas, on a l'impression que c'est très clair, il y a d'un côté le principe de plaisir, de l'autre côté le principe de réalité, et on s'aperçoit au bout d'un certain temps, surtout dans la reformulation sur les deux principes, qu'en fait il n'y en a qu'un seul. Parce que le principe de réalité est au service du principe de plaisir. C'est la première chose. Ensuite, mon idée est venue de la lecture, d'essayer de déchiffrer ce petit schéma très compliqué où Lacan fait deux colonnes, principe de plaisir d'un côté, principe de réalité de l'autre, et où il met pensée inconsciente du côté du principe de plaisir, et puis deux flèches, une qui monte vers le haut et qui va vers la réalité, où il met un point d'interrogation. Très curieux, un point d'interrogation. On ne sait pas du tout ce que ça vise. Hein. En fait, c'est un point d'interrogation qui dit que c'est, si du côté du principe de plaisir, c'est le bien qui fait plaisir, du côté du principe de réalité, il met un point d'interrogation. Alors, il aurait pu mettre souverain bien. Ça aurait été tout à fait dans le style Aristote. Mais c'est pas ça qu'il écrit. Et il commente pour dire qu'il met un point d'interrogation. En fait, moi, je pense que ce point d'interrogation, c'est quelque chose qui vise l'objectita. L'objectita, comme finalement, produit par le principe de réalité, en ce sens que le principe de réalité échoue toujours à satisfaire. Il y a toujours un reste. Donc je crois que c'est quelque chose comme ça. Et donc, il me semble que... Enfin, pour moi, c'est très intéressant que Lacan ait souligné ça. Et puis, il le dit même en parlant un petit peu de lui, en disant, mais vous savez, des fois, on parle et comme ça, et tout d'un coup, on se demande pourquoi on ressent tel ou tel affect, pourquoi c'est ce mot-là qui est venu plutôt qu'un autre. Il dit, mais c'est parce que, justement, nos pensées partent de ce côté du principe de plaisir. Donc, si c'est dans ce principe de plaisir que des pensées se forment d'une façon foisonnante et sans aucun sens, ça ne correspond pas à l'idée qu'on a du principe de plaisir classique, où on dit « ce qui fait plaisir, c'est de trouver du sens ». Je pense que c'est pas juste.
Moi, mon idée, enfin, ce qui m'est resté dans la tête sur ce débat de Lacan, c'est que le plaisir, c'est la visée de la moindre tension.
Oui, 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 oui. Oui. Hein,
c'est la moindre tension. Oui, donc, oui. Le désir, c'est de la tension. Oui, oui. La jouissance, c'est de la tension.
Ah, donc, est-ce que la jouissance, c'est de la tension?
Oui, toujours. C'est même de l'excitation.
Oui.
Ça pousse. Et donc, du coup, on comprend à la fois que le langage touche la jouissance, la morcelle, etc.
Oui, oui.
Mais en même temps, l'érotique signifiant t'emboîte l'excitation.
Oui, oui, oui.
La mécanique, oui, oui. Donc c'est au service, ça peut être au service du principe de plaisir.
Alors, ben, pas dans ce petit schéma. Dans
alors,
ce petit schéma.
Il vient d'où le schéma dont tu parles?
Oui, oui, alors le petit schéma.
Et de quelle date il est surtout?
Alors, il est de 1960,
d'accord.
Hein,
d'accord.
Et donc il existe aussi dans le compte-rendu, qui est dans Ornicar numéro 28, mais il est écrit d'une façon un peu différente, et les deux, à mon avis, les deux écritures ne sont pas conciliables. Alors, si vous le voulez... Voilà, je vais vous montrer. Il y a quelque chose pour écrire
de l'éthique.
C'est dans l'éthique et ça peut se trouver dans le compte-rendu. Donc, il fait un tableau avec principe de plaisir. Hein, et ici, principe de réalité. Après, il met trois étages. Alors ici, il écrit sujet. Ici, procès. Et ici, il écrit objet. Puis, alors, le sujet... Ici, avec son principe de plaisir, ce qu'il vise, c'est son bien. Et ici, ce qu'il vise, point d'interrogation. Ensuite, ici, il écrit pensée. Et en face, perception. Ça, c'est une lecture du chapitre 7 de la 32 Tung, hein, perception, conscience. Et puis, ici, il écrit inconscient. Et ici, il écrit connu, entre parenthèses, parole. Et... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il écrit, il fait un chiasme ici, comme ça, et ici, comme ça. Autrement dit que les pensées, elles sont du côté du principe du plaisir, elles sont dans le non-sens, mais elles sont perçues comme pensées quand elles sont articulées. Et à ce moment-là, c'est avec la pensée, effectivement, qu'on construit la réalité. Mais au départ, c'est là. Moi, je pense que ce truc-là est exploitable. Il y a certainement quelque chose à en faire. J'ai dans l'idée, moi, mais c'est un peu mon dada en ce moment, que ça pourrait se résoudre avec un nouage. Parce qu'on est, justement dans un système binaire qui ne rend pas compte de... Ce binaire ne va pas.
C'est pensée inconsciente ou pensée...
Alors, pensée, c'est inconscient, puisque c'est du côté... C'est les pensées foisonnantes.
Pour la pensée inconsciente.
Donc... Oui, oui. Mais c'est des pensées qui n'ont pas de sens. Hein? C'est ce que... J'ai fait allusion à ça, mais je ne vous ai pas dit que c'était de lui. J'ai lu un auteur intéressant, qui est une référence de Lacan, dont on ne parle pas beaucoup. C'est Arthur Koestler. Un drôle de type qui a écrit des choses assez fabuleuses, mais un peu dans différentes. Voilà. Et Arthur Koestler parle, il a lu Freud, hein, visiblement, et il dit il y a des pensées, il y a des pensées qui ne sont pas conscientes, et il dit il faudrait mieux dire. Ça pense. Hein? Comme on pourrait dire il pense, comme on dit il pleut. Hein? Et c'est joli, oui. Et il dit ça pense, et ça pense à côté. Et il en fait, c'est ça qui est intéressant, il en fait les conditions de l'invention scientifique. C'est-à-dire qu'il a remarqué que quand on invente, les grands inventeurs trouvent les choses sans les chercher. C'est-à-dire parce qu'il pense à côté. Hein. Donc il a fait une liste comme ça des grandes inventions, il y en a plein. Oui, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est ça pense à côté, c'est le lieu.
C'est de l'inconscient, c'est des pensées.
Oui, c'est des pensées. C'est des pensées. Mais qui ne participent à la réalité que quand elles sont articulées, c'est ça l'idée. Donc, je me dis que si c'est des pensées. Qui sont tout à fait foisonnantes et hors sens, c'est quand même embêtant de les mettre complètement sous le régime du principe de plaisir. Il me semble qu'il y a de la jouissance là-dedans. C'est tout, je ne peux pas en dire plus.
Oui, Colette, parce qu'il y a Colette, Radou et Marc.
Je voulais poser une question, hein. Puisque vous avez tous les deux évoqué beaucoup l'idée éthique du bien-dire, le bien-dire satisfait. Alors, il faudrait quand même qu'on se demande qu'est-ce qu'il fait. Le bien-dire satisfait, bon, il y a le jeu de mots, il y a l'inversion du proverbe, mais si on prend cette phrase, il faut dire que fait le bien-dire, puisqu'il fait assez.
Oui.
Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, je vous pose la question. Quelle est votre idée de ce que fait le bien-dire?
Ben, justement, en disant qu'il fait assez, il fait quelque chose qui arrête. Enfin, moi, ce que j'ai saisi, c'est quelque chose qui a un effet d'arrêt, de coupure. C'est-à-dire le satis, ça va, c'est ce qui fait satisfaction. Enfin, moi, ce que j'ai saisi, c'est que ce qui arrête, l'effet du bien-dire, a un effet de satisfaction et qui n'est. Qui crée une chute qui fait qu'on ne continue pas de chercher quelque chose. Moi, j'ai pas. Enfin, c'est pour ça que j'ai parlé de la satisfaction quand Lacan, dans l'éthique, parle de l'analyse fait promesse, hein, et il parle de la satisfaction. Tandis que là, effectivement, il évoque une autre satisfaction, justement, avec le fait de faire satisfait, hein, puisque du coup, on est du côté ça fait quelque chose. Parce que ça satisfait, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, et c'est la limite, enfin moi j'ai mis ça, j'ai compris ça comme quelque chose du discours qui ne peut plus rien traiter et qui fait coupure. Bon, c'est là où j'en suis arrivée. Ce qui m'a intéressée, c'est de constater, en travaillant sur la vie, que c'était quelque chose du côté aussi du discours, nécessité de discours, et que du côté du discours analytique, il y avait cette question du bien-dire. Donc il y avait discours contre discours, j'ai envie de dire, à partir du discours, de la nécessité de discours d'un sujet, qui est là par rapport à comment il est né dans la vie, hein, comment le discours analytique fait quelque chose qui arrête sa recherche de sens, hein, qui fait une chute et qui fait que c'est assez de chercher quelque chose qui le parasite ou qui fait symptôme. Hein. Donc, ce que ça fait, c'est que ça arrête. C'est ça que j'ai saisi pour l'instant. Je ne dis pas que je... Voilà, j'ai déjà été surprise d'avoir une définition de la vie. Là, oui, mais dans le sens que c'est la question du discours. Donc, c'est vrai que peut-être, Colette, vous avez lu tellement, moi aussi, mais disons que j'en suis là et je fais ce que je... Pour l'instant, c'est ce qui m'a intéressée.
C'est une très vaste question. Hein.
Tout à fait.
Je posais la question en pensant... Ce n'est pas une question dont j'attendais que vous donniez la
réponse. Non, mais je cherche moi-même parce que c'est intéressant.
La question se pose.
Voilà.
Quand Lacan dit le bien-dire satisfait, il écrit satisfait passé, voilà. Donc ça évoque la satisfaction.
Et le faire.
Et le faire, absolument.
Oui. Je trouve que...
Et assez.
Ça
et
veut
assez.
Dire... Ça, faire assez, oui. Voilà. Donc ça veut dire que pour nous, il faut s'arrêter sur ce faire, essayer de préciser ce faire. Mais je ne pense pas qu'on va le faire en 5 minutes, ni même en une heure.
Mais justement, pour revenir à ce verbe faire, c'est ce qu'il dit quand il dit « ma pratique, enfin c'est faire, tirer le bien-dire », c'est-à-dire, il dit « c'est ça que je fais ». Hein? Donc en tant qu'analysant, en tant qu'analyste, le travail, c'est de faire, et donc de tirer ce bien-dire. Donc, il y a quelque chose là, autour de ce faire, qui correspond aussi à la position éthique du psychanalyste, aussi, de faire ce travail, de tirer ce bien-dire, mais ça ne répond pas. Et puis d'autre part, je pense qu'en coupant satis et faire, il y a ce trait d'union, c'est-à-dire à la fois, on pourrait dire... logique. Enfin, si on le regarde, il y a un vide et il y a un trait. Hein, donc il y a quelque chose quand même entre et en même temps, il y a quelque chose qui fait lien et qui coupe. Voilà, mais c'est du côté de l'analyste qui... Voilà ce qu'il a à faire, lui. Voilà.
Donc Bernard, j'ai bien aimé.
L'idée que j'ai, moi, de ce que le bien-dire peut faire, c'est qu'il peut... avoir une portée. Hein? Lacan dit les mots ont une portée. Il dit que c'est une définition de l'interprétation. Les mots ont une portée. Et il remarque que les mots qui ont une portée, c'est pas forcément des mots qui ont une portée de sens. Donc, j'ai l'idée que si le bien-dire fait quelque chose, c'est qu'il doit faire, il doit avoir une portée. Hein, il doit faire événement, hein, et d'une certaine façon il opère un changement de perspective. Donc s'il y a quelque chose qui est efficace dans la psychanalyse, c'est quand justement un bien-dire arrive à créer un changement de perspective. Quand même, on en a des exemples.
Radou.
Alors, je ne veux pas répondre. D'abord, pour Nadine, je suis très content que tu... la situation à l'institution, parce qu'il faut être en institution pour se heurter à ce problème qui est d'actualité. Et autour du silence, enfin, moi, je crois que j'ai une position assez claire. Hein, c'est, ça ne peut être, pour des raisons pratiques d'efficacité, qu'un silence actif, un acte. Parce que sinon, on est vite rattrapé par la culpabilité. Et par rapport à la dimension un peu de politique, disons, avec les comités, tout ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Bernard et avec ce que disait Colette, que c'est la cure qui compte, c'est là où ça se joue. Mais enfin, il faut qu'il y ait les conditions nécessaires pour que la cure puisse avoir lieu, un minimum de démocratie. L'institut allemand de Berlin qui se transforme en institut Göring, les avis du Chili qui sont venus là et qui me disaient sous Pinochet, enfin, il y avait des analystes, mais enfin, ce qu'on disait à son analyste était répété ailleurs. Et puis, moi je viens d'un pays où pendant 50 ans, on ne pouvait pas faire de la psychanalyse. Et aujourd'hui, on a des collègues en Pologne, enfin, qui nous annoncent, enfin, des temps un peu qui s'assombrissent. Donc c'est pas que les comités d'éthique, ça va beaucoup plus loin. Et je crois que Lacan et même Freud, ils n'étaient pas dans le silence par rapport à ça. Lacan est allé à Vincennes quand même, il a écrit sur son monde, et puis Freud s'est prononcé aussi sur la situation en Allemagne dans sa correspondance au moins avec Einstein. Donc, bon, peut-être faut faire cette distinction-là.
Marc, vous voulez intervenir dans le micro varié. Marc,
c'est dérangeant. On ne peut pas changer de micro parce que
il ne marche pas mieux, je crois.
Si tu embarques, il y en a un, peut-être tu vas.
Je vais brancher.
Il s'éteint aussitôt, les piles sont vides. Tu sais, les piles, ça change.
C'est une bonne idée, oui.
Ça change quand c'est vide.
Ben oui. Ah,
c'est tu veux ça?
Non, ça va, je vais.
Vas-y, parle.
Regarde.
Oui, d'abord, je voulais vous remercier tous les deux pour vos exposés. Vous voyez des voies de réflexion vastes. Alors, je vais commencer par une question que j'oserais dire simple. Pendant ton exposé, les tiers du tien, j'avais une petite idée de ce que c'était que le bien-vivre, mais finalement, je ne sais plus. Comment est-ce que vous entendez le bien-vivre? Alors, je veux dire, pour poser la question, finalement, quel lien faites-vous, par exemple, entre le bien-vivre et la parole pleine de Lacan, que vous n'avez,
la parole pleine,
que vous n'avez évoqué ni l'un ni l'autre. Il me semble qu'il commence par là.
Oui.
Et pour moi, le bien-vivre, c'était finalement une reprise de la parole pleine en intégrant le patou. C'est-à-dire, justement, le plein n'est pas plein. Et c'est quand même bien dit, me semble-t-il, quelque chose qui met en fonction à la fois le savoir et la vérité. Et peut-être pour répondre à la question de tout à l'heure, puisque j'évoque la parole pleine, quand tu parles de portée, du bien dire, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que ça a une portée de lien, l'événement qui fait lien? C'est une parole, est-ce que le bien-dire est une parole? Bon, voilà. Ma question sur le bien-dire, j'ai une deuxième question sur, non pas l'éthique du bien-dire, mais l'éthique de la psychanalyse. Parce que vous avez utilisé un peu indifféremment les deux. C'est éthique de la psychanalyse, je vais beaucoup insister sur le silence. L'éthique des avenues du silence, c'est vrai. Mais en même temps, il faut bien voir que ni Freud ni Lacan n'ont été dans leur enseignement spécialement silencieux. Ils ont poussé leur enseignement jusqu'à l'exténuation, chacun. Et donc, la question du silence s'accompagne aussi, c'est un peu latéral par rapport à ce que je veux dire, de la question du jugement. À quel moment faut-il dire quelque chose et quoi ? Effectivement, Nadine l'évoquait dans les institutions. Bernard, tu l'évoquais à propos de ce petit ou gros salopard qui fait du mal autour de lui. Tu dis que ce n'est pas de la morale, mais ce n'est pas non plus de l'indifférence. On ne peut pas, disons, on ne peut pas le laisser faire en fermant les yeux. Simplement, il s'agit de ne pas oublier qu'il nous en parle de ce qu'il fait. Et quand on parle du fait qu'il nous en parle, on peut quand même intervenir à partir d'un jugement qui est l'autre. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a une dimension de jugement dans l'éthique de psychanalyse qui me paraît fondamentale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc deux questions, je résume, je viens dire, la parole pleine et le jugement.
Sur le bien dire, je serais assez radical. Hein. Je ne pense pas du tout que ça vise la parole pleine. Je crois que c'est vraiment, si tu regardes bien les différentes références, là je les ai mises dans mon texte, et tu pourras les regarder, c'est autant dans Oupir, autant dans Télévision, autant dans Les Noms Dupes et dans RSI, ce bien dire, c'est plutôt du côté de dire des bêtises. Hein. C'est l'association libre. Hein. C'est pas du tout la parole juste, c'est pas la parole pleine. C'est ça qui est très subversif, à mon sens. Hein. Et pourquoi on s'est concentré là-dessus, c'est tout simplement parce que c'est écrit dans le petit truc. Alors
à la fin de Télévision, par exemple, Lacan ne l'évoque pas comme ça.
Ah si. À se repérer dans l'inconscient, dans la structure.
Reste l'entreprise, etc. Raser le sens. Mais...
Ah non, écoute, c'est quand il dit, il faut s'y repérer. C'est l'éthique de la psychanalyse est une éthique du bien-dire, ce qui suppose de s'y repérer dans l'inconscient, dans la structure. Il le dit à un autre moment.
Bernard, se repérer, c'est pas dire des bêtises.
Non, mais ça va dans le sens de la préface du séminaire 11. C'est s'y retrouver soi, comme inconscient, et tout seul. Et c'est pas un dire qui noue quelque chose avec les autres. Ça noue quelque chose au niveau individuel, certainement. C'est pour ça que le nœud borroméen est fait. C'est pour montrer l'effet d'un dire. C'est un effet de nouage. Mais ce n'est pas un lien social. Ça ne fait pas lien social, je ne crois pas. Et en tout cas, si tu lis l'éthique en 1960, si tu lis le séminaire encore, et si tu lis toutes les références à l'éthique qui viennent après, tu vas voir que Lacan ne parle absolument plus de la morale, il se concentre à chaque fois sur l'éthique du bien-dire. Et je pense que l'éthique du bien-dire, ça va du côté de l'interprétation. Hein, c'est...
Je voulais juste le bien-dire de l'analyse.
Is, bien sûr, pas ni de
l'analysant. Non. C'est le résultat de leur conjonction, interaction qui produit du bien-dire.
Du bien-dire qui a des effets.
C'est la parole, le bien-dire.
Non, non, je crois pas. Et qui a des effets. Et qui a des effets.
On espère.
Hein, qu'on espère que ça a un effet et que ça a un effet de subversion. C'est pour ça que ça m'amusait de parler de ces proverbes contrariés, parce que c'est vraiment de cet ordre-là.
Oui, ce que je voulais juste rajouter, je ne sais plus si c'est dans Oupir ou par là, c'est qu'effectivement, Lacan oppose la parole et le discours. Et le bien-dire, elle est plutôt du côté des effets du discours. Donc, il y a quand même les quatre lettres qui fonctionnent, et il oppose...
Il n'y a pas de discours sans parole aussi.
Si, si.
Il le dit, ça se pose.
Il dit, ce que je souhaite, c'est un discours sans parole.
Voilà. Je souhaite.
Oui, non.
Justement, ça veut dire qu'il n'y a pas.
Ce que je veux dire, les effets, ils sont. C'est le dispositif analytique met en route un discours à partir peut-être d'une parole qui commence à partir de la parole, mais c'est le discours qui se met en route. Il y a quelque chose qui. Il le dit que ça s'oppose. Donc il y a quelque chose dans la parole qui ne met pas en route les quatre lettres, qui ne met pas en route S1, S2, S barré, petit a. Non mais il dit que la parole n'est pas le discours, que ça s'oppose. Donc l'effet de la psychanalyse, c'est un effet qui produit un discours.
Ce qu'il appelle discours, c'est un lien social. C'est ça qu'il appelle discours. Alors, le lien social ne s'établit qu'à partir des éléments de langage. Ça va de soi, il y a ni qu'un petit baptême. C'est ça qu'on a du mal avec ce terme de discours. Parce que des fois, discours désigne le discours qu'un tel tient, et c'est pas dans ce sens-là que Lacan le prend. Donc ce n'est pas le discours du blabla de la parole de tel ou tel.
C'est la structure du lien qu'il appelle le discours.
Alors évidemment, la structure du lien, ça n'est pas la parole. On comprend bien qui demande...
Mais il n'y a pas de discours sans le phénomène de sa mise en acte, c'est-à-dire sans la parole. Et bien, il y a une façon d'intervenir hystérique, du maître, etc.
Bien entendu. Bien sûr.
Donc, Agnès, Sol et Nicole.
Moi, juste un petit clin d'œil pour Bernard. Sur que fait le bien-dire? Le bien-dire s'attisse. Peut-être que le tissage, c'est un nouage.
Merci.
Sol.
Oui. Alors,
je veux parler fort.
Je vais essayer de parler fort. Oui,
comme ça que je l'entends.
Je vais vous décevoir. Je veux aussi intervenir sur le bien-dire. Cette discussion très très bien. Alors, j'étais intéressée. D'abord, merci pour vos deux exposés qui ouvrent, qui défrichent le terrain de façon très riche. Alors, j'ai beaucoup apprécié Nadine. Votre insistance sur la nécessité de déborder, sur le fait que ça déborde le cadre de l'analyse, les effets de l'analyse, ça déborde, ça va ailleurs. Et puis, j'ai retenu votre insistance sur l'idée de tirer le fil. Vous disiez tirer le fil, l'analyste tire le fil. Je n'ai pas pris des notes détaillées, mais l'idée c'était que l'analyste tire le fil du bien-dire, de l'éthique de l'analysant. Vous avez dit quelque chose à peu près comme ça. Donc, la question, je l'adresse à vous deux. Bernard, tu insistais sur le bien-dire en le situant du côté de l'analysant. Et je me disais que, Colette d'ailleurs l'a suggéré à l'instant, on ne peut pas, me semble-t-il, le limiter comme ça. Hein. La référence que j'ai en tête dit très clairement... Un devoir, c'est un devoir de bien dire ou de s'y retrouver dans la structure. Donc, ce bien dire, c'est se retrouver dans la structure. Et alors, je me disais, quand même, le discours analytique, c'est le lien social à deux, hein, qui résulte de la pratique d'une analyse. Donc, tout ça se fait à deux. Hein? Bon, on peut insister sur la distinction entre la tâche analysante et la tâche analytique, mais là, il s'agit d'un travail à deux. Et donc, il me semble que le devoir du bien-dire, il est imputable, si l'on peut dire, à l'un comme à l'autre. Hein? Et que, comme Lacan le dit plus tard, l'analysant parle, l'analyste dit, il n'y a pas de bien-dire sans bien-dire de l'analyste. Hein? Voilà, je le dis de façon un peu affirmative, un peu forte, mais c'est une question que je vous adresse à tous deux avec mes remerciements.
Oui, mais je peux répondre à ça parce que c'est un point que, que je vais travailler à Toulouse, ça, sur l'interprétation, par rapport au mot d'esprit, et parce que, ça va t'aller, parce que ce que Freud dit du mot d'esprit, c'est que le processus qui a commencé chez celui qui l'énonce n'a sa portée que sur celui qui l'écoute. Voilà. Donc, effectivement, le bien-dire les concerne tous les deux.
Donc, ça fait bien. Je reviens à la charge.
Oui, mais ça fait un lien équivoque.
Et alors, mais non,
d'accord, c'est pas la parole pleine. C'est pas le « tu es ma femme », etc.
Non, c'est pas, mais c'est un héritier de la parole pleine.
Si tu veux, mais c'est quand même quelque chose qui est plus du côté de l'écho, de la résonance avec l'équivoque, avec la torsion que ça peut avoir, et...
avec la distinction du « dit » et du « dire ».
Bien sûr, avec le « dit » et le « dire ».
Qui n'est pas dans la parole.
Et qui est... Et je suis tombé sur une petite phrase de Freud que je trouve merveilleuse, qui est en fait pas de Freud, c'est de Shakespeare. Il cite Shakespeare qui dit que la portée d'un bon mot ne dépend pas de la bouche qui le prononce, mais de l'oreille qui l'entend. Donc je pense que ça dit très joliment exactement ce qui se passe et que ce dire effectivement fait un espèce de va-et-vient, hein, et qu'il n'y a pas de bien dire qui ne soit pas bien entendu, c'est-à-dire tout de travers, parce que sinon ça n'a pas de portée.
Mais en fait, ce qui met un peu dans l'embarras, c'est que il y a bien à dire, donc il y a aussi il y a bien à dire. Dire que derrière il y a le dire, il y a bien, enfin il y a quelque chose là qui n'est pas si clair que ça quand même. Hein? Parce qu'il y a un renversement entre ce bien qui prend d'Aristote pour l'articuler au dire avec ce petit trait d'union, donc quand même ça interroge sur ce que ça veut dire exactement ce bien dire. Enfin, c'est pas... Moi c'est une question quand même, et je voudrais peut-être reprendre sur le discours. Moi, ma question qui reste, enfin, une des milliers de questions qui restent, c'est quand il parle de nécessité de discours et le lien avec les quatre discours. Ça reste un peu énigmatique pour moi. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire, une nécessité de discours?
Il n'y a de nécessité que de discours.
Ben, c'est ça qu'il dit exactement.
Oui, de la répétition, oui. Mais comment... comment ça? Parce que est-ce que là, on pourrait dire quand la répétition met en route le discours, parce que la répétition c'est la nécessité, hein, c'est ce qu'il dit dans l'Empire.
Oui, mais la réciproque n'est pas vraie. La répétition c'est la nécessité.
Oui.
Le concept de nécessité se réduit pas à la répétition.
Oui, c'est la nécessité dans le sens.
La nécessité c'est quelque chose qui se démontre logiquement.
C'est ce qui ne cesse pas.
Voilà, oui,
ça se démontre en logique, la nécessité. C'est pour ça que ça n'a de sens que dans le discours. Parce qu'on ne démontre que dans le discours. Discours au sens de l'articulation signifiante.
Vous
voulez
intervenir? Vous parlez fort?
Pas très fort, je ne sais pas, enfin, vous trouvez que c'est assez fort?
Oui,
bon, enfin, bon, je vous remercie aussi tous les deux pour votre exposé. Je suis assez d'accord avec Bernard Nominé sur le fait que la parole pleine, en tout cas pour moi, n'inclut pas le patou. Ce qui peut inclure le patou, c'est par exemple la poésie, mais pas la parole pleine.
Bien sûr.
Il me semble qu'il y a... Donc,
ah oui, puisqu'elle est pleine.
Voilà, mais attendez, je vais essayer de dire, je ne suis pas certaine de dire quelque chose d'intelligent. Alors, il y a la parole vide, il y a la parole pleine, et il y aurait la poésie, ou l'équivoque. Et donc, voilà comment j'apercevais en tout cas les, la position hein, de la parole pleine entre, entre ces deux. D'autre part, il me semblait que pour cette question que tu te poses, Nathalie, il me semble que l'exemple que tu as donné dans l'institution exemplifiait ta question. C'est-à-dire que tu étais arrivée à ce moment où tu ne pouvais pas faire usage du semblant du discours pour dire quelque chose. Il y a donc, ce suspens, en quelque sorte, on peut s'interroger à certains moments, on ne peut pas dire, il y a quelque chose qui ne se dit pas, mais qui est effectivement un silence affectif, comme disait Radou, c'est-à-dire que quelque chose porte et qui n'est pas dit en mots. Et il me semble que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire le satis est fait, il y avait ce quelque chose de ce suspens, me semble-t-il, il me semble. Et il me semblait donc que ce que tu as vécu dans l'institution, eh bien, venait exemplifier en quelque sorte la question que tu formulais en même temps. Je ne sais pas si cette parole.
Bien, donc on va s'arrêter là. Donc, à la prochaine.